My heart pumping in my chest. Even though my body's so cold, I feel old on the ground. Ain't nobody listening but my heart tells the truth, can't deny. Telling stories my body can't hide. I'm bleeding on the floor. No one here witness my wounds, my scars don't lie. And my heart is burning. Pain won't break me down.
Bonjour, nous sommes les élèves de seconde 8 du lycée Pierre Dailly à Compiègne. Nous recevons Sandra Nkake pour un concert dans notre établissement. Sandra Nkake, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous présenter le projet? Qui vous accompagne sur scène et avec quel instrument?
Bonjour, merci de m'accueillir. Le projet s'appelle Scars et ça veut dire cicatrices. Ce sont des chansons qui parlent de chemins de guérison. Je les ai imaginées comme des talismans qui nous donneraient à chacun, chacune la force de d'avancer, de nous reconstruire. Ça parle de sororité, de lutte, de résistance, mais ça parle aussi de joie, d'amour et de tendresse. Ce sont des chansons que j'ai écrites, composées et réalisées avec Jidru, qui est aujourd'hui avec nous sur scène, qui joue de la flûte traversière. Et je suis accompagnée de Jérôme Pérez, qui joue de la guitare électrique et qui chante aussi, et qui a aussi enregistré sur le disque.
Comment avez-vous découvert la musique et comment vous est venue cette envie de chanter?
Alors, comment j'ai découvert la musique? Je pense que la musique m'a toujours entourée, déjà in utero, et puis après en naissant, il y avait toujours de la musique à la maison. Mais si la question c'est qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de devenir musicienne, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai toujours beaucoup chanté, je passais mon temps à chanter en fait, même en cours des fois, c'était un peu pénible pour tout le monde. Mais n'étant pas dans une famille ou dans un environnement où il y avait des musiciens, je ne savais pas que c'était un chemin possible. Et c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que je devais chanter, plutôt que de chanter dans les couloirs de la fac, bah, qu'il fallait que j'aille rencontrer des musiciens et des musiciennes. C'est comme ça que j'ai rencontré d'autres musiciens et musiciennes. Et que la première fois que je suis montée sur scène, il s'est passé quelque chose qui est compliqué à décrire, mais qui est de l'ordre... c'est un peu comme quand vous êtes traversé par la foudre, ou quelque chose de très puissant, à la fois étrange mais très agréable. Et j'avais la sensation que j'avais trouvé l'endroit le plus juste pour moi sur cette terre, en tout cas dans cette société, parce que ça me permettait d'abord moi de me faire du bien, mais aussi d'être en connexion avec les autres. Et en fait, je pense que profondément, au départ, c'est ça que je voulais faire comme métier, un métier qui me mettrait en relation avec les gens. Et la musique est arrivée à moi et j'ai choisi de l'accepter.
Vous êtes franco-camerounaise. Nous voudrions savoir pourquoi vous chantez à la fois en anglais et en français.
Alors, c'est très intéressant comme question. Je trouve que c'est toujours complexe de se définir. Je ne sais pas s'il faut se définir par rapport à ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Sur ma carte d'identité, je suis française, mais je suis née au Cameroun et j'y ai grandi. Et il se trouve que le Cameroun a eu deux langues imposées par les colons, c'est le français et l'anglais. Il y a plein d'autres langues qui sont parlées, mais les langues nationales, ce sont celles-là. Et donc, pratiquement tout le monde au Cameroun parle les deux langues. Donc, on alterne un peu entre les deux. Donc, on va dire que ce sont deux langues que j'ai dans mon bagage et avec lesquelles je joue et j'alterne au gré de mes envies. Mais c'est vrai que chanter mes chansons en français m'a pris plus de temps parce que les textes que j'écrivais en français pour moi étaient connectés à un endroit douloureux et que j'avais pas envie de transmettre ça. J'avais envie que cette douleur, elle soit comprise, analysée, digérée. Donc voilà, tout ça, c'est le chemin d'une vie. J'étais tout à fait capable de chanter en français des chansons d'autres personnes, mais pour les miennes, c'était plus complexe. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas pour moi c'était important de respecter ma propre temporalité. Donc voilà, je chante en français, je chante en anglais, mais j'ai aussi fait des spectacles où je chantais en yiddish, en espagnol, en arménien. Je crois que la langue, on peut décider de s'en foutre. Il faut aller là où on est bien, où on est confortable. Je sais que souvent on s'entend dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Non. Ce qui ne veut pas dire ne pas essayer des choses et ne pas progresser. Mais si on est confortable, si on est en sécurité quelque part, c'est important d'avoir cet endroit de sécurité. Donc voilà, donc il y a les deux langues et peut-être qu'un jour je chanterai en italien, en russe, j'adorerais. Il y a une chanson qui s'appelle Terre Rouge dans le disque qu'on n'a pas joué là et qui parle justement du Cameroun. Et dedans, je chante en français et en douala. Donc, qui est une des langues originelles du Cameroun.
Votre grand-père est un ancien danseur du Ballet National du Cameroun. Est-ce que cela vous a influencé ?
Alors, cela ne m'a pas influencé parce que ça, je ne l'ai appris qu'après son décès. En fait, j'ai grandi avec quelqu'un que je pensais connaître, mais je ne connaissais qu'une partie de sa vie. Moi, quand j'étais petite et qu'il m'a élevée, il travaillait au ministère de la Culture. Et c'était un fervent footeux, il entraînait des jeunes du quartier, tout ça. Et c'est vrai qu'il dansait un peu à la maison, mais pas, enfin, je ne pouvais pas imaginer qu'il avait embrassé une carrière à la fois de danseur, mais aussi d'ethnomusicologue, parce qu'en fait, dans son travail, il allait dans les villages et il répertoriait tous les types de danse et les costumes qui allaient avec, et les maquillages qui allaient avec. En fait, il avait commencé à faire une espèce d'encyclopédie de toutes les danses primaires du Cameroun. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après son décès. Alors peut-être qu'il y a des choses qui m'ont été transmises sans que je le sache, mais je pense que ça me l'a été transmis par ma mère, pour le coup. Parce que ma mère dansait beaucoup. Je pense que ça m'a transmis aussi cette espèce de feu de liberté. Et plus jeune, je voulais faire de la danse. J'ai voulu faire de la danse classique, mais je me suis un peu heurtée au fait que bah d'abord, je commençais un peu tard, que j'étais plus grande que tout le monde. J'étais comme ça à 11 ans, donc c'était un peu compliqué. Mais de plus en plus dans mon travail, j'essaie de réintégrer pas forcément de la danse au sens... Enfin, si, de la danse aussi, du langage corporel. Souvent, dans nos spectacles, on aime bien avoir des rendez-vous, des petites chorégraphies, parce que... Parfois, les mots ne suffisent pas à raconter quelque chose. Le geste, en plus, permet d'aller un peu plus loin dans la narration et dans les sous-titres.
Que vouliez-vous faire comme métier lorsque vous aviez notre âge ?
Quel âge avez-vous ?
16 ans.
Alors, quand j'avais 16 ans, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire, mais pour de vrai. J'avais une idée, on va dire, générale. Être en contact avec les gens, leur faire du bien. Il n'y avait aucun métier dans ma famille qui me donnait envie. Et j'étais pas forcément outillée pour ça. Mais je me disais que peut-être professeur ou journaliste, parce qu'évidemment, dans la médecine, ce n'était pas possible, parce que mes notes en maths, ce n'était pas ça. Hein. J'avais 2 de moyenne de la 6e jusqu'à la 3e. Et ça a changé en seconde, d'ailleurs. Mais voilà, et que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. En même temps, je crois que ça ne m'angoissait pas trop. J'étais déjà très contente d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir enfin cessé de déménager, d'être dans un endroit un peu stable. Et je me disais que forcément, à un moment donné, j'allais trouver un truc. Et une fois que j'ai eu mon bac, s'est posé la question un peu plus précisément, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ne sachant toujours pas, j'ai demandé conseil à un de mes profs. Mon prof adoré, c'était mon prof d'anglais. Et il m'a dit, utilise les matières, ou en tout cas les endroits où tu es le plus à l'aise, et le plus, pas forte, mais en tout cas, le plus à l'aise. Et donc, je me suis inscrite à la fac. J'ai fait une licence de culture et de civilisation anglo-américaine. Et donc, c'était histoire et littérature. Mais je me suis aperçue très vite que ce n'était pas du tout un cadre qui me correspondait. Parce qu'en fait, justement, moi, j'ai besoin d'être cadrée. J'ai besoin qu'il y ait des attendus. J'ai besoin qu'il y ait des échéances. Et par exemple, les cours magistraux, j'étais paumée dans des amphis. On est 400, c'était l'enfer, j'entendais rien. Et en plus, j'avais quitté la maison, donc il fallait que je travaille pour subvenir à mes besoins, pour payer mon appart, pour manger, tout ça. Donc souvent, je ratais les cours. Enfin bref, je digresse. Mais tout ça pour dire que je n'avais aucune idée et que c'est vraiment, justement, en arrivant à la fac, en n'y allant pas trop, en rencontrant des musiciens, des musiciennes, des comédiennes, que j'ai commencé à me faire des contacts dans ce monde-là et que j'ai senti que ma bizarrerie devenait neutre dans cet espace-là, qu'en fait j'avais trouvé un endroit où j'étais normale. Et que donc c'est de là qu'il fallait que j'essaye de construire la suite.
Vous êtes arrivée en France à l'âge de 11 ans avec votre mère. Quels souvenirs en avez-vous ?
Alors en fait, je suis arrivée, on va dire, je me suis posée en France à l'âge de 11 ans, effectivement. C'était avec mon frère. On a rejoint ma mère. C'était pas un départ qui était prévu. Donc je ne savais pas où j'allais. J'arrivais dans un nouveau quartier, donc dans une nouvelle école. En fait, de mes 5 ans à mes 11 ans, on a souvent déménagé, on a souvent fait Paris, Yaoundé Paris, sans savoir quand est-ce qu'on partait, sans savoir quand on revenait. Donc j'ai pas un bulletin scolaire complet, un bulletin scolaire annuel complet, jamais. La stabilité, c'était Yaoundé. Et quand j'arrivais à Paris, j'arrivais dans un nouveau quartier, donc dans une nouvelle école, donc des nouveaux copains. C'était un peu déstabilisant, enfin très déstabilisant d'ailleurs. Et je pense que ça a nourri pas mal d'incertitudes et d'instabilité. Et le fait d'arriver et de savoir au bout d'un an que finalement on allait rester là, bah finalement ça m'a permis de me construire et de me projeter tout simplement. Donc ouais, c'était à la fois agréable de se poser, mais en même temps je me sentais vraiment perdue. Dans les codes sociaux, dans la manière que les gens avaient de se comporter, dans la température, dans les activités, dans cette ville de Paris qui est énormissime. Quand on habite une petite ville et que c'est pas qu'on connaît tout le monde, mais en tout cas on connaît pas mal de gens. On peut se déplacer à pied. Paris, c'était compliqué à apprivoiser. Mais maintenant, vous pouvez l'entendre, je suis parisienne.
Vous inspirez-vous pour vos textes ?
Pour mes textes, ça dépend des albums, ça dépend des moments, ça dépend des projets aussi, parce que j'écris des chansons pour moi, mais pas que pour moi. J'écris aussi des chansons, par exemple, pour le projet de Jidru. On a aussi écrit des chansons pour un projet collectif qui s'appelle Tribe from the Ashes. Et donc, en fait, ce qui va d'abord déterminer les chansons, c'est quelle histoire globale on a envie de raconter. De là, on va essayer de se concentrer sur des thèmes. Une fois qu'on a les thèmes, par exemple sur ce dernier disque, c'est ce qu'on a fait, on s'est installé pendant une semaine dans un studio, on n'a fait que ça, discuter, échanger sur qu'est-ce que j'avais envie de raconter, quelles étaient les idées qu'il fallait absolument faire transparaître dans les chansons, déterminer un champ sémantique. Par exemple, je savais que je voulais qu'en gros, je puisse répondre à la question « qu'est-ce qui me constitue ?» Et dans tout ce qui me constitue, c'est une espèce de millefeuille. Il y a beaucoup d'étages. Il y a le fait d'être assigné au féminin, le fait d'être noir, le fait d'être né au Cameroun, le fait d'avoir une voix grave, le fait d'avoir vécu des violences, le fait de chanter, ma voix. Enfin, il y avait tout ça. Donc tout ça, on l'a écrit. Il y a aussi préciser quelles sont les énergies qu'on a envie de mettre. Je savais que je voulais de la résistance, je voulais aussi de la douceur, parce que je ne suis pas que en lutte, je suis aussi quelqu'un de tendre, mais que cette tendresse-là, pour qu'elle soit perceptible, il faut la montrer. mais que comme on est dans un monde qui laisse pas de place à la douceur, à la tendresse, à la lenteur, c'est compliqué d'évoluer. On a tendance à se construire une espèce de carapace. Je voulais aussi pouvoir parler du Cameroun, en fait, de parler de toutes les ressources, moi, qui m'ont permis d'avancer, de guérir et de me construire. Donc l'amitié, la sororité, les éléments, le Cameroun, ma voix. Ma voix dans le sens que cet instrument m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'être en contact avec le monde. C'est vraiment un instrument de lien. Et donc voilà, une fois qu'on a eu posé tous ces mots-là, ça faisait comme une espèce de tas de plein de fils de laine. Et puis on a tiré les fils tranquillement. Et parfois on écrivait ensemble, parfois séparément. Puis on se rejoignait, on se faisait lire des choses. Parfois il a écrit carrément un texte en entier, moi aussi. Parfois on écrivait un bout chacun. Enfin voilà, on ne s'est pas imposé de méthode, si ce n'est beaucoup échanger, beaucoup parler. Et une fois qu'on a parlé et qu'on a posé ces thèmes-là, c'était bien aussi parce que ça permettait, une fois qu'on avait fini la première étape, de revenir à cette première feuille et de se dire, est-ce qu'on a bien toutes les lignes qu'on avait écrites au départ? Est-ce qu'on a bien rempli toutes les cases? Et si jamais il manque quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas fini. Pour ces chansons-là, j'avais envie de partir d'un matériau qui est intime, mais que ça devienne une matière collective. Et quand je dis intime, je ne dis pas personnel. C'est-à-dire que jamais dans les chansons, vous aurez des détails de ma vie privée. Par contre, je me dis que pour que les personnes se reconnaissent, ou en tout cas rentrent dans la chanson, rentrent dans l'histoire, il faut que ce soit des émotions qui m'ont impacté, moi, très fortement. Parce qu'en fait, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et qu'en allant au plus près de ce qu'on a ressenti, on peut éventuellement réussir à toucher les autres. Et enfin, ce qui m'inspire, c'est de me dire que le métier que j'ai choisi, qu'on a choisi, permet de créer des miroirs qui vont vous permettre, à vous, auditeuristes, de percevoir les ressources que vous possédez en vous. Ce n'est pas du tout des leçons, c'est plutôt vraiment un miroir, quoi.
Pourquoi avez-vous appelé votre nouvel album Scars?
Alors, Scars, ça veut dire cicatrice. Parce que justement, elle raconte le chemin parcouru. J'ai hésité à l'appeler comme ça, mais cicatrice, pour moi, ce n'était pas forcément évident que la blessure était vraiment refermée et vraiment soignée. J'ai hésité avec trace, au pluriel, parce que ça aurait pu sonner aussi en français et en anglais. Et en même temps, je trouvais que Scars, il y avait quelque chose de plus incisif. J'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lettres. Et puis que graphiquement aussi, c'était cool. Mais par rapport au thème, ouais, c'était important que ça fasse état de là où moi j'en étais, de mon chemin et personnel, mais artistique aussi.
Dans une précédente interview, vous avez dit que vous ne deviez pas laisser vos traumas vous définir. Quel serait votre conseil pour les personnes qui en ont subi?
Alors, déjà, quand on a subi un ou des traumas, il n'est pas forcément évident de le savoir ou de l'avoir en pleine conscience. Parfois, on a subi des traumas, mais voilà, il y a une amnésie traumatique qui se met en place et on oublie. Parce que le cerveau disjoncte et le fait de disjoncter, ça lui permet, nous, de rentrer dans un mode survie et de ne pas devenir complètement fou ou folle. Conseil, y a plein de choses. Il y a un accompagnement, évidemment avec des amis, avec des proches, mais ça peut être avec des professionnels de la santé aussi. Ne pas hésiter à parler. Parfois, quand on parle à une personne, ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas le tout de parler, mais il faut être entendu. Que cette parole elle soit entendue, écoutée, respectée et valorisée. Ce que je peux dire, c'est que je suis persuadée qu'on possède les ressources pour guérir, pour se transformer, pour aller mieux. Mais que ça prend du temps. Et que ce temps, c'est un temps qui est unique à chacun, chacune. On n'a pas le même temps de guérison. On n'a pas le même temps de prise de conscience du trauma et on n'a pas le même temps de guérison. Donc ça dépend de tout un chacun, tout un chacune. Moi, je suis à une phase où il m'a fallu presque plus de 30 ans pour pouvoir dire le mot inceste, par exemple, sans que ça déclenche des vomissements, des tremblements. Voilà, donc ce temps-là, il est important de le respecter. Encore une fois, on va vous demander de vous faire violence. Non, la vie, elle est déjà assez violente comme ça. Mais pour pouvoir guérir, il faut se savoir malade. Si on ne sait pas qu'on est malade, on ne peut pas entamer un chemin de guérison. Mais déjà, le fait de se dire « Ok, il y a un truc qui m'empêche d'être bien avec moi, d'être bien avec les autres », il faut s'en occuper. C'est à la fois un chemin qu'on fait seul intérieurement, mais pour lequel on va être accompagné, on peut être accompagné, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors il y a plein d'outils, il y a des associations, ça peut commencer par le médecin généraliste, ça peut ou par votre gynéco, ou une assistante sociale. Enfin voilà. En fait, il y a plein d'outils qui sont à notre portée, mais les outils ne viennent pas vers nous, il faut qu'on aille vers eux.
Vous évoquez des sujets comme les féminicides ou la sororité. Vous considérez-vous comme une artiste engagée ? Y a-t-il un message politique dans vos morceaux ?
Je pense qu'il y en a plein, beaucoup. Mais c'est une bonne question de qu'est-ce que c'est que la politique ? Il y a la politique politicienne à des fins électoralistes, qui ne me concerne pas, qui ne m'intéresse pas. Et il y a la politique, c'est-à-dire quelle société on a envie de construire collectivement. Et ça m'intéresse. Et si j'ai choisi aussi de faire de la musique, c'est pour ça. C'est pas juste pour chanter pour moi dans ma salle de bain, sinon je resterais dans ma salle de bain, je kifferais trop dans ma salle de bain, parce qu'elle a une super réverb. Mais c'est comment on fait état de ce monde qui dysfonctionne, qui est ultra-libéral, qui écrase, qui exploite, qui tue, et comment on réfléchit collectivement à comment le désinguer et créer autre chose. Donc évidemment que c'est politique. Alors c'est pas forcément ultra lisible dans les paroles, mais ça va l'être dans les entre-morceaux, ça va l'être dans la manière que l'on a de travailler et de faire société ensemble, d'être sûr d'être dans une démarche qui va être respectueuse, non violente, non raciste, non sexiste, tout ça quoi, toutes ces cases à cocher. Engagée, ça je ne sais pas, c'est j'espère l'être de plus en plus. J'ai l'impression que l'engagement, ça sous-entendrait que je sois active dans des assos, et ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, politique, oui, forcément. Les choix qu'on fait, ils sont politiques.
Que pensez-vous de la place des femmes dans la société actuelle ?
Cette question est difficile parce qu'elle englobe la place que l'on prend et la qualité de la place que l'on prend. Je dirais qu'on n'est pas encore dans un millénaire où le fait d'être féminin, avec ou sans vulve, soit respecté. On est encore et toujours perçu comme des objets pouvant servir à aider les autres, des objets sexuels, des objets. Mais les femmes n'ont de cesse de résister. De résister, de militer et de prendre de plus en plus de place. Il ne faut pas attendre qu'on nous la donne, on ne nous la donnera pas. C'est le principe même des oppresseurs, ils ne vont pas laisser tomber leurs privilèges. Ils ont pris toute la place, donc si on veut juste exister, il faut la prendre. Mais ça se passe de manière collective, encore une fois. Et qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis ça tout en parlant d'un endroit où moi je me sens très, très privilégiée. Je suis productrice, indépendante, je peux m'exprimer comme je veux sans finir en prison. Et voilà, je suis aussi dans une vie qui me rend épanouie intellectuellement, émotionnellement. Et donc je peux aussi prendre des décisions et agir dans la vie avec plus de liberté. Pour les femmes qui ne sont pas dans ce cas-là, la vie est très dure. La vie est très dure et la lutte, elle est pas finie pour que nous puissions être des personnes à part entière. En tout cas, reconnues comme des personnes à part entière.
I shall not fear. to know nothing will break down my flow. All the strength I have in me will grow up and show. Now I glow. On the day that I was born, it was 96 degrees.
Hard time.
My mother wasn't sure. She was crawling on her knees.
Hard time.
Yelling into the hallway, crying on the floor.
Hard time.
She left her soul behind her. My mother wasn't pure.
Hard time.
On the day that I was born, my mother was alone.
Hard time.
No one to soothe her pain. I cried as loud as I could.
Hard time.
To show I was alive. But she was 19.
Quel genre de salle préférez-vous jouer? Un club intimiste ou devant 1000 personnes comme prochainement au Trianon à Paris?
Je préfère jouer au lycée. En fait, j'aime le fait de pouvoir voir les gens, de pouvoir les sentir, de pouvoir être assez proche. Donc j'ai une certaine affection pour les petits lieux. Mais le Trianon, par exemple, c'est parmi les plus petites des grandes salles. Cette taille-là, ça me va. Après, pour moi, c'est trop grand. Dans l'idéal de ce que j'aime ressentir moi sur scène et aussi en tant que public, par exemple aller voir des concerts dans des zéniths, d'abord je pense que je suis agoraphobe, donc ça m'oppresse, il y a trop de monde, il y a trop de gens autour, et puis tout est fort, tout est et puis les artistes ils sont loin. Ce qu'on fait c'est du spectacle vivant, c'est pas comme si j'appuyais sur un bouton et qu'il y avait tout qui se déclenchait et qui était en automatique. J'ai besoin que ce soit vivant, donc pour que ce soit vivant il faut aussi que je... Pas forcément que je vois tous les visages, mais en tout cas que je sente, que j'ai cette sensation de sentir les gens. Donc au-delà de 1000, je trouve ça un peu grand. Je le fais, on le fait, mais je prends plus de plaisir avec les salles moyennes petites.
Nous avons pu voir sur Instagram que l'image était très souvent travaillée dans vos publications. Quel est votre rapport avec l'image?
Effectivement, avoir des outils d'image qui racontent ou qui continuent de raconter ce qu'on dit en musique, en texte, c'est assez important. Et je travaille avec plusieurs vidéastes, plusieurs photographes, mais dont Jérôme aussi, qui aime beaucoup la photo, les films, la lumière. Il est graphiste aussi. Et oui, c'est vrai que l'image, elle permet de raconter autre chose, parfois de préciser des choses. Pour moi, c'est un outil de communication. Par exemple, sur le dernier clip qu'on a fait, là, qui s'appelle « Fuck you, I'm not afraid », c'était important d'avoir quelque chose qui représente à la fois l'énergie, la rage, la colère, la détermination. Et l'image choisie, le geste, le maquillage et les vêtements permettent de traduire cette énergie-là. Pour moi, c'est un objet de communication et de sens. C'est comment parfois révéler un sens caché des chansons ou appuyer un sujet.
Dans les précédents clips, on a remarqué que c'était plutôt tourné en intérieur, alors que dans le clip Mon cœur, c'était tourné dans un paysage naturel. Pourquoi ce choix de paysage?
Parce qu'en fait, Mon cœur, donc, c'était sur le disque précédent, qui s'appelle Tangent Moon Wishes, donc les vœux qui sont faits à la lune. Il y avait cette idée de transformation, de transcendance qui était intéressante. Et en fait, c'était un lieu que l'on a rencontré en se baladant, en allant en vacances. Et en fait... Je l'ai trouvé très, très puissant, très, très inspirant et évidemment très beau. Donc ce lieu est devenu un personnage à part entière Et ouais, le choix, il s'est fait assez, assez naturellement. C'est un choix assez intuitif, je pense. En fait, en trouvant le lieu, on s'est dit, oh, il faut absolument venir faire quelque chose ici. Et une fois qu'on a eu la chanson, on s'est dit, ben voilà, c'est cette chanson-là, on va la faire là. Trop beau, et c'est en Bretagne.
De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie professionnelle et personnelle ?
Ce dont je suis le plus fier, c'est de réussir à comprendre de mieux en mieux qui je suis et à m'accepter comme je suis. Et ça, ça me met en joie. Mais que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, fier aussi d'avoir réussi à construire une petite société de famille, de cœur et de famille de sang aussi, généreuse et avec beaucoup de respect. Et ouais, on a bien bossé, on bosse bien.
Entre tous vos titres, quel est votre préféré et pourquoi ?
Comme on est aujourd'hui, je vais vous répondre avec la réponse d'aujourd'hui. Si ça avait été hier, je pense que la réponse aurait été différente. Aujourd'hui, je dirais Lose Control, parce que c'était le point de départ de Scars, en fait. C'était la fin du disque précédent et le début du chemin de celui-ci. Parce que je me suis autorisée à jouer de la guitare. Je ne suis pas fière que de la chanson, mais de tout ce que ça a impliqué, de tout ce que ça a produit comme mouvement intérieur. J'ai l'impression que c'est une espèce de chevauchée un peu tranquille, mais qui part un peu en montée comme ça. Et je me la chante souvent dans ma tête. Et c'est un peu comme un mantra de jamais oublier d'être doux avec soi-même et des fois de se délester des choses qui nous alourdissent pour rien.
I'm traveling light to see the dawn. I wanna float to brand new shores. I don't wanna stay here on my own. I've been swimming through rivers of body shaking heart. In my dreams, everything is fine. In my core,
Vous chantez dans le morceau « Te manquer » de Grand Corps Malade. Ce morceau totalise 5 millions de vues sur YouTube et près de 3 millions d'écoutes sur Spotify. Comment avez-vous vécu l'exposition de ce morceau ?
Oh Lord ! J'étais même pas au courant. Incroyable. Donc Grand Corps Malade m'a invité à chanter cette chanson avec lui. Et voilà, donc on se connaissait pas, on s'est retrouvés en studio et ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. C'était plutôt chouette à faire. J'étais contente aussi de pouvoir écrire le texte. Et voilà. Et ensuite, une fois que la chanson est sortie, on a fait quelques promos ensemble, quelques télés, quelques radios. Et puis oui, effectivement, ça a plu à plein de gens. Ben, comment on le vit ? On le vit bien. Enfin, je veux dire, on est content quand une chanson touche les gens. Mais je n'en fais pas plus cas que ça. Mais ouais, je t'entends mieux, c'est chouette que les gens s'approprient de la musique et s'en fassent des colliers de force. C'est cool.
Dernièrement, Spotify a publié une lettre ouverte pour dénoncer la taxation de leurs profits pour financer le Centre National de la Musique, un établissement public qui aide à la création artistique. Qu'en pensez-vous et combien avez-vous touché en droits d'auteur de la part de Spotify pour vos morceaux présents sur la plateforme ?
Alors, Spotify ne nous rémunère pas en droits d'auteur, mais en royauté. Donc c'est un pourcentage sur la vente. Sachez que quand vous achetez un morceau ou vous écoutez un morceau de quelqu'un sur Spotify, l'argent n'est pas redistribué à cette personne. Tout l'argent va dans une espèce de pot commun et ensuite est redistribué de manière proportionnelle aux artistes les plus écoutés. Donc, si vous n'écoutez que Tartempion, tout l'argent que vous mettez dans le pot commun ira par exemple à, je ne sais pas, Jul, aux personnes qui sont le plus écoutées. Donc déjà, ce n'est pas équitable. Ensuite, quand vous êtes artiste, vous avez un contrat avec un label et ce label vous reverse un pourcentage sur les ventes, qui est comme ça. Et ensuite, il y a un abattement sur tout ce qui est vente numérique, donc pas les ventes physiques. Et là, il y a un abattement de 50%. Et pour Spotify, c'est... Alors, pour 600 000 streams, je crois que c'était genre 125 euros, un truc comme ça. Donc, pour soutenir concrètement la production musicale, en fait, il faut acheter des produits physiques. Parce que c'est là qu'il y a la répartition la plus juste sur les plateformes. C'est juste, c'est inique. Enfin, je sais même pas comment le dire. C'est aussi pour ça qu'il y a plein d'artistes qui décident de retirer leur musique des plateformes parce que ils et elles sont très très grosses et ils peuvent se le permettre. C'est vrai que on est dans une période où on se pose la question. Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir passé des semaines, des mois à travailler, à produire, à investir dans la musique? Pour finalement qu'il ne soit reversé rien, que les gens aient l'impression qu'en fait c'est normal. Ah tiens, je prends une chanson, j'aime bien, je l'achète pas, je la prends. Oh ben la musique, ça a pas de valeur, on s'en fout. Ouais, je kiffe, mais je vais pas non plus payer pour de la musique. Bah si en fait, parce que derrière il y a des personnes qui travaillent. Donc voilà, donc Spotify c'est pas nos amis non.
Avant de terminer cet entretien, quelle est votre actualité ?
Je joue samedi à la gamme. Mon actualité en ce moment c'est que nous sommes en tournée. L'album est sorti l'année dernière, on a tourné toute l'année 2023 et on tourne toute l'année 2024. Donc si samedi, vous êtes à Creil ou pas loin, venez, viendez.
My heart keeps on burning, everlasting fire. My heart won't stop, can't drop, and my heart is burning.
Merci beaucoup Sandra Nkake d'avoir répondu à nos questions. Merci à Didru et Jérôme Pérez qui vous accompagnent à la flûte et à la guitare.
Merci à l'équipe de Radio Graphite. Merci à Madame Doss, notre professeure de français. Et merci à vous d'avoir écouté notre émission.
Vous pouvez la réécouter en podcast sur www.graphite.net.
Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un PEPS, parcours d'éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture pour favoriser l'accès à la culture des apprentis, lycéennes et lycéens du territoire. Il a reçu le soutien financier de la région Hauts-de-France.